Bonjour, Grand Portage. Politique.
À 8h38, on va rejoindre Marie-Ève Proulx pour la chronique du lundi. Salut Marie-Ève.
Bonjour Kevin.
Disons que tu es dans l'actualité beaucoup parce que le budget du gouvernement Legault sera présenté demain et tu veux en parler bien sûr et revenir également sur la situation économique.
Oui, exactement. Budget 2024-2025 sera présenté demain par le ministre des Finances. Un budget qui, on s'en doute, sera sous le signe des restrictions. Hein. Depuis 2017, là, on était dans les surplus accumulés. Là, ça va être vraiment différent parce que depuis, on le sait tous, il y a eu une pandémie mondiale qui a eu des impacts majeurs sur l'économie. D'abord pour la gestion de la crise, puis ensuite tous les effets collatéraux économiques là, qu'on pense à l'inflation, qu'on pense au taux d'intérêt qui a augmenté aussi, puis les changements importants aussi des modes de vie. Évidemment, la pandémie, là, comme je le disais, a eu un impact dans l'investissement. On a mis beaucoup d'argent dans la gestion de cette pandémie. C'est des montants faramineux. Ça a coûté cher aux États, mais on peut se consoler en se disant que c'est partout dans le monde. D'un autre côté, il y a eu beaucoup d'investissements dans des secteurs comme la culture, le milieu des artistes, l'éducation, les petites entreprises, et j'en passe, là, ouais. Pour soutenir, pour maintenir une activité. Hein. Fait que ça aussi, ça a été des deniers publics qui ont été utilisés pour maintenir en vie certains secteurs pendant qu'on gérait la crise, puis pendant qu'on était complètement fermés. Ensuite, bon, inflation, taux d'intérêt, changement de mode de vie, ça fait en sorte que les surplus ont fondu comme neige au soleil. Puis là, aujourd'hui, le gouvernement subit lui-même les contre-coups de l'inflation parce que le gouvernement du Québec est une des instances qui dépense le plus pour faire vivre l'État. Donc ça aussi, ça a des impacts là, sur notre budget général. Puis juste pour te donner un exemple, au niveau de la culture, les coûts associés à la location d'équipements, la main-d'œuvre, les frais d'organisation et de transport ont augmenté de 15 à 40 % dans les événements. Puis on sait que ces événements-là, les événements culturels, qu'on pense aux festivals ou à différentes manifestations, ils vivent grâce aux subventions gouvernementales, mais elles n'ont pas suivi l'indice des prix à la consommation. Là. Ça n'a pas augmenté pour autant parce que les dépenses de ces organisations-là montent. Évidemment qu'ils ont eu beaucoup de généreuses subventions pendant la pandémie, mais là, c'est fini. Donc, les lendemains de veille là, vont être plus difficiles. Puis, à preuve, la semaine dernière, on a eu tout un choc en apprenant. Bien, c'était pas un choc quand on est familier avec le milieu de la culture, mais dans le fond, juste pour rire, hein, que c'est sous la protection de la faillite. Donc, c'est un gros morceau aussi. Ça faisait partie de notre culture générale. Fait que, tu sais, on peut se demander qu'est-ce qui va arriver avec les plus petits. Ça, c'est sans parler aussi des salles de spectacle qui en arrachent actuellement. Les gens, je parlais d'habitude de vie, les gens vont moins dans les lieux de diffusion, vont plus restreindre leur sortie à cause de l'état des finances, l'état de l'économie, excuse-moi. Ça paraît beaucoup sur leurs revenus actuellement. Le gouvernement a compensé depuis les dernières années là, pour les salles de spectacle. Le gouvernement a beaucoup compensé. Mais là, à un moment donné, dans le contexte où le budget va être plus serré cette année, il va devoir couper. Donc, où va-t-il couper? Est-ce que ce sera là? Comment vont s'en sortir, là, toutes nos salles partout dans les régions? C'est important, particulièrement en région. Ça paraît quand on a une salle de spectacle qui fonctionne à l'année. C'est un des seuls lieux où on a accès à la culture. Je m'en vais dans le secteur de la santé maintenant. On apprenait ce matin à Radio-Canada que plusieurs centres intégrés de santé et services sociaux avaient des déficits importants, particulièrement au Bas-Saint-Laurent. On parle d'un déficit de 60 millions de dollars. Tu en as sûrement parlé ce matin. Il y a un plan de redressement qui a été déposé au ministre, ce qui expliquerait les déficits croissants de plusieurs centres de santé. C'est vraiment l'utilisation là, des agences privées pour le recours à la main-d'œuvre. Pour le Bas-Saint-Laurent, à titre d'exemple, là, c'est assez troublant les chiffres. Là. Le taux horaire avant la pandémie était de 56 $ de l'heure. Il est maintenant à 128 $.
Aïe, aïe.
C'est plus que le double. Puis tout ça combiné à l'incapacité de recruter des établissements. Puis plus on s'éloigne en région, plus on a des effets. Quand on se compare, on se console. Par contre, le CIS des Laurentides aurait un déficit accumulé de 170 millions de dollars. Donc, eux aussi ont du travail à faire. Mais moi, la question que je me pose, c'est comment feront ces établissements pour revenir à un équilibre budgétaire, considérant les impacts du vieillissement de la population, les besoins accrus en soins, les départs à la retraite, le manque de personnel formé, l'incapacité à offrir du vrai soutien à domicile, on en a parlé dans une chronique, puis le manque flagrant d'incitatifs à prendre sa santé en main comme citoyen. Puis là, en plus de ce que je te nomme là, on sait que le budget du gouvernement provincial est déjà consacré à plus de 50% juste dans la santé.
Ben oui, c'est 1 milliard par semaine qu'on dépense uniquement en santé
exact.
Au Québec. C'est immense. Mais là, les défis sont, parce que je t'écoute parler, Marie-Ève, les défis sont imposants. Le contexte économique n'est pas évident. Je sais que du côté de la CAQ, on ne veut pas parler d'un climat d'austérité, parce que ça, c'est vraiment associé aux années libérales. Mais c'est un peu ça qui nous attend, des années beaucoup plus difficiles avec un climat beaucoup plus austère.
Clairement, moi je suis pas gênée de le dire, puis c'est pas pour rien que demain, ce qu'on va sûrement voir, c'est que, je vais juste te ramener peut-être en avant pour répondre à ta question, le total des dépenses du gouvernement là en 2023-2024, 115 milliards de dollars. Ça a dû être sûrement plus élevé avec ce que je t'ai nommé tantôt cette année. Le déficit accumulé en 2023-2024 était à 4 milliards. Puis le gouvernement avait dit, OK, parfait, on va se donner 4 ans. En 2027-2028, on va rembourser 1 milliard par année. Moi, ce que je pense qui va arriver, là, pour répondre à ta question, c'est qu'ils vont juste reporter de plusieurs années le déficit, dans le fond, le remboursement du déficit. La loi du budget oblige de rembourser, de faire un budget équilibré. Mais il y a quand même des assouplissements qui ont eu cours là, par hasard dans la dernière année pour pas arriver à un budget équilibré. Est-ce qu'ils vont. L'autre option aussi, c'est qu'ils coupent dans le Fonds des générations. On se rappelle que le Fonds des générations, ça avait été décidé pour faire en sorte que la dette du Québec ne s'accumule pas pour les générations à venir. Donc, il y a une somme qui est obligatoirement, c'est un pourcentage du budget qui doit être envoyé dans le Fonds des générations et qui sert là, à éviter que ce soit qu'on pèle toujours par en avant, dans le fond, la dette. Je ne sais pas si tu sais, mais dans un processus de budget, là, dans le fond, il y a une grande partie que ce sont des consultations prébudgétaires. C'est impressionnant de voir le nombre de mémoires que le ministre des Finances reçoit, des mémoires très étayées. Évidemment, de tous les secteurs d'activité confondus, là, le secteur des entreprises, sport, la culture, l'éducation, les organismes communautaires, là, tous les secteurs confondus. Ce qu'ils demandent, ce que tout le monde demande, là, je te donne une chance, là. Qu'est-ce que les gens demandent dans les consultations prébudgétaires?
Probablement de l'argent.
Et voilà! Donc, dans cette perspective-là, si on n'a plus les moyens, si on n'a plus les sommes, qu'est-ce qu'on fait? Ça me préoccupe parce que on a moins de capacité, on aura moins de capacité dans les prochaines années. Non, on ne peut pas dire qu'on est dans une période d'austérité, mais oui, il y a quelque chose qui se passe là dans notre économie, puis on peut pas le nier. On doit y faire face. Ça pour moi, c'est préoccupant parce que je vois là, puis tu sais, les besoins sont réels. Je pense pas que les gens ont bluffé dans la consultation prébudgétaire. Puis quand je lis ça, je vois les besoins sont immenses. Puis quand on dit que des fois notre système craque de partout, ben c'est là qu'on s'en aperçoit. Mais dans toute crise, hein, moi je le dis souvent, il y a des opportunités. Dans celle-là, je pense que les organisations, les organismes à but non lucratif et les entreprises ont intérêt, dans tous les secteurs d'activité, là, à faire une réflexion sur les nouvelles approches qui pourraient être utilisées, diminuer la dépendance aux programmes gouvernementaux, par exemple. Je pense qu'il faut arrêter de s'entêter à demander de l'argent puis essayer de devenir créatif. Puis on le sait, là, tous les besoins se valent, tout doit être prioritaire, mais à un moment donné, collectivement, on devrait se poser des questions. Ça doit se faire du côté des organisations qui demandent des fonds au gouvernement. Puis d'un autre côté, j'ai envie de dire que le gouvernement a aussi une responsabilité d'être clair dans ses orientations, dans les choix qu'il fera, puis que ça réponde aux besoins collectifs et urgents. On pourra plus se permettre collectivement des dépenses frivoles, puis il y a sûrement un dossier qui vient en tête, et inutiles ou des choix douteux que certains gouvernements, puis je parle dans l'histoire, là, je parle pas nécessairement dans le récemment, mais il y a des dépenses parfois qu'on peut se poser des questions. Puis c'est quoi les besoins, comme je le mentionnais, que le gouvernement devra prioriser? Puis tout cela, c'est un jeu d'équilibriste, là, hein, pas facile dans le contexte d'incertitude économique, là, à qui on donne, est-ce qu'on diffuse à tout le monde ou on concentre sur certains secteurs? Ça va prendre du courage politique. Puis je pense qu'on va devoir, demain, on va être à même d'observer dans le budget s'il y a eu du courage politique où on a décidé de repousser les décisions et la gestion de la crise à plus tard. C'est ce qu'on va voir demain.
Ouais. Une chose est certaine, c'est que demain, après le dépôt du budget, c'est très rare que les commentaires positifs émanent. Au contraire, souvent, c'est des gens qui sont déçus. Et probablement que ça risque d'être la même chose demain lorsque le gouvernement va déposer ce budget-là.
Bien, tu as raison, mais moi, j'ai vu, je te dirais, de 2018 jusqu'à la veille, parce que le budget avait été déposé à la veille de la pandémie, c'était des commentaires dithyrambiques.
Ouais.
Parce qu'évidemment, on était dans un contexte de surplus, donc le gouvernement était plus généreux, on va dire ça comme ça, puis c'était un nouveau parti dans son nouveau rôle. Il voulait se faire des amis. Peut-être, mais là, évidemment, je suis d'accord avec toi, demain, ça risque de frapper fort, mais il faut se mettre aussi dans le contexte que là, c'est pas du caprice, ça va être que notre situation économique commande des choix.
Ouais, oui.
C'est là qu'on va voir si le gouvernement sera courageux de faire ses choix, parce que le contexte économique, là, il est là en ce moment, on peut pas le nier. L'inflation est là, les taux d'intérêt, les gens ont changé de mode de vie, il y a beaucoup moins de dépenses, ça a des répercussions, là, ça a des effets dominos dans tous les secteurs.
Oui, assurément qu'on aura l'occasion de revenir sur le dépôt du budget la semaine prochaine. Merci beaucoup, Marie-Ève.